Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous. Il y a quelques mois, un jour dans l'histoire vous proposait de découvrir l'œuvre d'un homme, celle de Jean-Christian Petit-Fils, une œuvre primée par l'Académie des sciences morales et politiques. Au cours de cette émission, au cours de cette rétrospective que vous pouvez retrouver dans la médiathèque de Canal Académie, vous avez pu apprécier le parcours d'un amateur d'histoire qui, très vite, se mua en véritable professionnel du grand siècle. Je vous propose aujourd'hui de changer d'époque et de nous arrêter à l'œuvre d'un autre historien, à l'œuvre d'un autre chercheur. Je reçois en effet au micro de Canal Académie le médiéviste Jacques Herz. À la différence de Jean-Christian Petit-Fils, nous aborderons ici un parcours universitaire, puisque, après avoir passé l'agrégation, Jacques Herz a été professeur successivement à Aix-en-Provence, Alger, Caen, Rouen et enfin Paris. Paris, où il a été directeur du département d'études médiévales de l'université Paris 4 Sorbonne. Jacques Herz est aussi l'auteur d'une œuvre magistrale et éclectique qui nous entraîne de la Jérusalem de Godefroy de Bouillon à la cour des Borgia et des Médicis, du Paris de Louis XI aux îles Caraïbes de Christophe Colomb ou encore de Constantinople prise par les Turcs aux négriers en terre d'islam. Jacques Herz, bonjour.
Bonjour.
C'est la deuxième fois que je vous reçois au micro de Canal Académie. Je vous ai invité une première fois pour évoquer l'appel de Clermont du mois de novembre 1095.
Exact, c'était cela, oui.
Appel du pape Urbain II, fait majeur s'il en est notre histoire, puisqu'il inaugura ce qu'on appellera bien plus tard, nous y reviendrons, les croisades. Vous pouvez aussi, chers auditeurs, télécharger ou écouter cette émission à votre disposition dans la médiathèque de Canal Académie. Jacques Herz, votre actualité littéraire est marquée par un ouvrage au titre engageant, et j'allais dire engagé, L'histoire assassinée, les pièges de la mémoire, un ouvrage paru aux éditions de Paris. Alors, avant d'en venir à cet ouvrage, je souhaiterais revenir sur votre œuvre et peut-être plus sur votre parcours, aux origines même de votre vocation. D'où vient, Jacques Herz, votre vocation d'historien ?
Ma vocation d'historien vient de mes études en Sorbonne. N'est-ce pas ? J'habitais la Sarthe, je faisais le voyage du Mans à Paris et je pensais préparer à l'origine une licence de lettres. Ça m'a semblé difficile, je n'avais pas de formation, je l'avoue, classique suffisante, il me manquait le grec. Et il s'est trouvé donc que la licence d'histoire a réussi assez bien, sans grande difficulté. Et vous venez de faire allusion au concours d'agrégation, qui est vraiment le moment où l'on voit ce que l'on pèse. Et je dois dire que des quatre épreuves écrites, le Moyen-Âge a été celle la mieux primée. J'ai eu une note à laquelle je ne m'attendais pas. Le correcteur, professeur de l'Université de Lyon, est venu me trouver. C'était tout tracé pour une thèse.
Donc ce n'était pas une vocation d'adolescent, en fait, c'était
non.
Plutôt une vocation tardive.
Peut-on parler de vocation ? J'en ai fait un métier, je ne l'ai jamais regretté. À l'heure actuelle, je reviens quelquefois sur le passé, je me félicite de ce métier. Je dirais, cela peut choquer peut-être dans le cadre de cette émission, que ma vocation d'enseignant a été supérieure pour moi à celle d'historien. Je suis historien parce que j'ai enseigné. Et en quelque sorte, c'est au fur et à mesure de l'avancement dans la carrière de professeur que, ayant plus de loisirs, ayant plus de recul, j'ai commencé à écrire.
L'idée de transmission, donc l'idée de l'enseignement est donc majeure chez vous.
Oui, c'est une affaire de transmission. C'était inévitable puisque de par mes possibilités à l'époque, j'ai commencé par être instituteur. Vous avez dit tout à l'heure l'agrégation passée, mais j'enseignais bien avant l'agrégation, enfin, avant et après, instituteur, professeur de collège, j'étais professeur dans l'ouest de la France, au Prytanée militaire de la Flèche en particulier, et puis après, évidemment, la carrière, les recherches universitaires. 3 ans en Italie. passé 3 ans à préparer, à rechercher, non pas à écrire, 3 ans. On ne faisait pas une thèse en 3 ans, il fallait 7 à 10 ans à l'époque. Mais j'ai résidé à Gênes, en Italie, et de tout cela, je n'ai gardé que d'excellents souvenirs.
Il y a vraiment une différence entre l'enseignement universitaire et l'enseignement, vous parliez du collège, du lycée.
Il n'y en avait pas. Je crois que maintenant, c'est terrible. La différence est terrible, ne serait-ce que par la fréquentation des auditeurs, la qualité des auditeurs.
Dites-nous-en un peu plus sur ces années de collège, sur ces années de lycée. Vous avez vous-même suscité des vocations ?
À ce moment-là, non. Non, parce que si vous voulez, quand vous prenez, j'apprenais à lire à des gosses d'abord, j'ai fait ça. Et puis ensuite, le collège ou lycée d'Alençon, vous suscitez rien de plus que le bac. Les vocations non plus à la Flèche, il fallait qu'ils préparent Saint-Cyr. Et ça, ils l'ont préparé, c'était ça. Alors, j'en retrouve quelquefois des officiers dans tel ou tel colloque, n'est-ce pas, ou réunion, ou tout à fait par hasard. Non, ce que je veux dire des rapports entre l'enseignement et l'histoire, c'est que, contrairement à ce que l'on pourrait penser, et ce n'est peut-être pas vrai pour tout le monde, pour moi, enseigner a été enrichissant. Pas désagréable pour ce qui est du niveau secondaire, mais vous l'aurez compris, là, pour moi, ça n'a duré que 3 années. Tandis que j'ai fait, alors je ne compte pas vite, mais peut-être 25 à 30 années de supérieur, 25 au moins. Et l'enseignement supérieur apporte beaucoup à l'historien-chercheur. Parce que si vous avez devant vous un cours, n'est pas une classe, d'étudiants éveillés, et ils l'étaient de mon époque, certains très 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 capables de suivre et de comprendre, vous sentez immédiatement la réaction de ce que vous êtes en train de dire. Or, l'avantage de l'histoire, par rapport à d'autres domaines peut-être, c'est que vous ne répétez pas la même chose. N'est-ce pas ? Vous pouvez changer le programme tous les ans. Je dirais même que vous devez le changer. C'est infini. Donc, par conséquent, et puis vous parlez un peu de vos recherches personnelles. Et si vous les faites tout seul dans votre coin, ce n'est pas tout à fait la même chose que de voir des garçons de 22, 23 ans, et surtout, plus tard, des hommes et des femmes qui préparent des thèses, qui ont 40 ans, cela, n'est-ce pas, que vous suivez pendant 7 ans. Et je dois dire que lorsque je me retourne en arrière, pour moi, le plus gratifiant, le plus important, excusez-moi, vous allez être déçus, ce n'est pas le livre, les livres que j'ai faits, n'est-ce pas ? C'est les thèses qui ont été soutenues au moment où je les dirigeais.
Alors, je demandais si vous aviez suscité des vocations, mais vous-même, dans votre jeunesse, dans vos recherches, quels ont été vos maîtres en histoire, vos références ?
Eh bien, mes références ont été, si vous voulez, de deux ordres. Les maîtres en Sorbonne, puisque je suivais, les noms ne diraient peut-être plus rien à vos auditeurs maintenant, Édouard Perrois, Charlène Montperrin et d'autres aussi à ce moment-là, et Renouvin en particulier aussi. Et puis alors après, au moment où je me suis spécialisé pour les recherches, ceux qui ont suivi ma thèse, en particulier Braudel, Fernand Braudel, et qui n'était pas professeur à la Sorbonne, donc qui est venu un peu tard, et puis Yves Renoir, qui a disparu beaucoup trop tôt, si bien que je n'ai plus de maître, si vous voulez, très vite. Mais enfin, ces deux-là, qui étaient des économistes, des méditerranéens, m'ont beaucoup aidé.
Alors, on sent à la lecture de votre livre « L'histoire assassinée » paru aux éditions de Paris que la question historiographique, les écoles historiques, constituent une préoccupation. C'est vraiment important. Au cours de vos études, apportiez-vous autant d'importance à ces débats qu'aujourd'hui, aux moyens et à la façon d'écrire l'histoire ?
Non. Naturellement, j'étais jeune, je me suis laissé faire, on ne pouvait pas être l'élève ami, je dirais, de Fernand Braudel, sans adhérer aux annales. J'ai été pendant 6 mois, ça m'a coûté un peu d'argent de trop, l'abonné des annales, bien sûr. Il est resté très satisfait de moi, Fernand Braudel, mais je n'ai pas cru à la notion d'école. Et c'est une chose qui est difficile, n'est-ce pas ? Très difficile à faire admettre. J'avais publié déjà bien des livres lorsqu'on m'a dit un jour, lors d'une conférence, comment vous situez-vous par rapport à telle et telle école ? Je ne me situe pas. Pourquoi voulez-vous que je me situe ? Qui veut dire qu'une école doit exister ? Et c'est, voyez-vous, c'était l'un de mes combats vis-à-vis de mes étudiants au début. J'ai trouvé que, trop vite, ils étaient un peu intoxiqués, je dirais. Ne cherchaient pas à trouver ce qui pouvait être intéressant. Ils cherchaient à confirmer ou à critiquer ce qu'avaient écrit les précédents. C'est le contraire de la recherche.
Alors, j'allais vous poser une question justement. Avez-vous eu personnellement un engagement politique ? Mais finalement, vous venez de me répondre, vous n'avez pas eu d'engagement politique.
Ah, non.
Aucune prédisposition pour aller vers telle ou telle école, tel ou tel courant politique ?
Ah non, absolument pas. Je dirais d'ailleurs que, si vous voulez, je suis médiéviste, donc, dans le Moyen-Âge, c'est peut-être la période, avec l'histoire moderne, c'est peut-être les deux périodes qui n'ont pas été marquées par cela. L'histoire contemporaine l'est terriblement, évidemment. J'ai bien connu tout ce qui s'est écrit en mon temps et après aussi, commission, etc., soutenance de thèse en Moyen-Âge. Je n'ai trouvé vraiment, et cela ferait peut-être 50 collègues à tout première vue, un seul qui ait fait profession d'un engagement politique. Mais c'est rarissime. Et cela, non. Et je me bats encore auprès de journalistes, quelquefois, lorsqu'ils viennent me dire « mais cet enseignement universitaire est faussé par l'engagement politique ». Je dis non, pas que je sache. Pas en histoire, en tout cas, dans les universités en France.
Alors, ce refus, vous disiez que vous étiez engagé, vous êtes abonné à la revue Les Annales, mais très précocement, vous avez voulu vous constituer un précaré de liberté ?
Non. Non, j'étais...
Ce n'est venu qu'avec le temps.
Si vous voulez, c'était ipso facto. On vous dit, vous allez faire telle thèse, j'ai eu beaucoup de chance d'ailleurs, je vais vous dire pourquoi, c'est Brodel qui a trouvé le sujet, m'a dit aller à Gênes. Moi, je voulais aller en Espagne. Je parlais mieux l'espagnol que l'italien, tout de même. Enfin, tout était en latin, finalement, à Gênes. Alors, ça a mis tout le monde d'accord. Mais il m'a envoyé à Gênes. Il savait pourquoi, c'est qu'à l'époque, car c'est une chose aussi dont les Français ne prennent pas conscience. Et les écoles étrangères nous valent, n'est-ce pas ? Et il aurait été difficile d'aller travailler aux archives de Gênes et de faire une thèse à un moment où l'université aurait été brillante. Et elle l'était pas. Lendemain ou surlendemain de la guerre, les Italiens avaient beaucoup, beaucoup à rattraper et j'ai donc été très bien accueilli, n'est-ce pas ? Et je ne pouvais pas avoir beaucoup de relations parce que en France, alors quand je parlais de Gênes, c'est comme si j'avais parlé, je ne sais pas, n'est-ce pas, de Kachamka ou autre chose. Ah bon, tu fais une thèse là, pourquoi pas ? C'est après, lorsque j'ai commencé à étendre, à faire, nous allons en parler, d'autres livres.
Alors justement, quelle est la nature de votre œuvre dans les premières années ? C'est ce que nous verrons, Jacques Herz, après une première pause.
Bonjour, c'est Hélène Renard. Je vous invite tous les jours sur Canal Académie pour l'émission Au fil des pages. L'actualité littéraire, les livres des académiciens, ceux dont ils recommandent la lecture, ou encore les ouvrages déposés sur le bureau de l'Académie des sciences morales et politiques lors des séances. Chaque jour, je vous invite à la lecture, à la découverte de l'histoire, de la société, des femmes et des hommes qui font l'actualité littéraire. C'est dans Au fil des pages. À tout à l'heure.
Un jour dans l'histoire reçoit Jacques Herz, auteur du livre « L'histoire assassinée, les pièges de la mémoire » paru aux éditions de Paris. Nous évoquons, Jacques Herz, votre parcours d'historien. Vous parliez de Gênes, mais de manière générale, vous vous intéressez, j'allais dire dans la lignée, l'école des Annales, aux aspects économiques et sociaux. Il y a un livre, L'Occident au XIVe, XVe siècle, aspects économiques et sociaux, qui a été réédité à plusieurs reprises, que vous avez donc écrit. La première édition date des années 60, si mes souvenirs sont bons. La dernière édition date des années 90. Alors, par rapport justement à l'évolution de la pensée historiographique, est-ce que l'édition de 61 est bien différente de l'édition de 90?
Ou le contraire, oui. C'est-à-dire que, bon, en ce moment, j'ai l'impression qu'ils ne vont plus le rééditer, n'est-ce pas? Parce que ça s'adresse quand même à un public étudiant à l'époque qui recherchait beaucoup de précisions, beaucoup de détails. Non, je ne crois pas. Si on me demandait à un moment, je l'ai cru, je l'ai espéré, si on me demandait de le rééditer, je pourrais simplement alourdir la bibliographie d'une façon considérable, car beaucoup de choses ont été écrites depuis. La seule chose, c'est que, si vous voulez, la question que vous me posez me fait réfléchir, et excusez-moi de vous le dire si brutalement, me paraît très importante, parce que effectivement, entre les dates que vous avez choisies, je crois pour la troisième ou quatrième édition, j'ai tout remanié, complètement. J'avais commencé, c'était Robert Boutruche, directeur de la collection, et il m'avait suggéré cela, la ville et la campagne. C'était Saint-Plais. Et ensuite, j'ai tout refondu en traitant en même temps l'un et l'autre. Car un des seuls apports de l'historiographique du moment à laquelle j'ai contribué, c'est de ne jamais dissocier la ville et la campagne, de faire croire qu'ils étaient hostiles, différents du point de vue social, alors qu'il y avait une osmose, tous les aspects importants. C'est cela qui m'a fait changer le Clio.
Alors, votre œuvre est également, je le disais en introduction, est également marquée par la géographie, entre guillemets, puisque vous êtes intéressé aux Caraïbes de Christophe Colomb, à Gênes. Et vous avez commencé, vous le disiez avant la pause, vous avez commencé par l'Italie. C'est Fernand Braudel qui vous y envoie. Et vous prenez de passion pour l'Italie, parce que ça ne sera pas le seul ouvrage que vous écrirez sur l'Italie.
J'ai pris passion, je ne voulais pas revenir. Je ne voulais pas quitter ma ville de Gênes. J'ai essayé de toutes les façons. Il n'y avait aucun poste pour moi en Italie, n'est-ce pas, ni dans un institut français, ni où que ce soit. Donc j'ai dû revenir. Je ne me suis pas éloigné beaucoup, n'est-ce pas. Je suis allé à Aix-en-Provence, c'était encore à peu près ça. J'ai depuis lors beaucoup, beaucoup voyagé. Je me suis toujours trouvé bien et très intéressé partout. Je crois qu'en effet, l'Italie est ma seconde patrie, ou tout au moins mon second pays.
Alors, Gênes, justement, étudié en 1959 par vous, puis bien plus tard en 1961 et 79. Gênes est-elle une ville qui sort de l'exception, ou au contraire, ces recherches vous ont permis peu à peu de travailler de manière générale sur la ville au Moyen-Âge, la ville qui est un thème, encore une fois, récurrent de votre œuvre?
Ce n'est pas simple ce que vous évoquez là. Si vous voulez, on peut dire ceci, c'est que toute ville sort de l'exception. Et c'est un peu vraiment l'erreur que nous avons commise, que j'ai commise en plusieurs occasions. Le marchand italien, la ville de commerce, les ports. Et là, je dois dire qu'il m'a fallu des années pour sortir de l'ornière. Je me suis aperçu peu à peu, n'est-ce pas, en travaillant, que aucune cité, aucune économie, aucune société ne correspondait vraiment à une autre, sauf évidemment entre des villes voisines, peut-être qu'entre Florence et Sienne. Mais par exemple, creusant la question, je peux vous répondre que pour les structures économiques, pour la façon de mener les affaires, pour les strates de la société, il n'y a rien de comparable entre Gênes et Venise, par exemple. Absolument pas. Le commerce n'a rien à voir, n'est-ce pas? C'est très différent. Et l'historien s'en aperçoit. Et il s'en aperçoit d'autant plus que c'est l'objet d'un des petits chapitres du livre, que la documentation, évidemment, n'est pas la même. Et c'est cela qui est important.
Vous insistez beaucoup dans votre livre sur la diversité des sources et sur l'importance pour l'historien de se diriger vers des sources autres que les sources classiques, telles que les mémoires.
Alors là, ce sont deux aspects de la question. Vous avez raison de les souligner. D'un côté, C'est pourquoi Les pièges de la mémoire est en sous-titre. D'ailleurs, des deux titres, c'est le seul que j'avais proposé. L'autre est de l'éditeur. C'est pas le premier titre, mais j'adhère tout à fait. Bien. Si vous voulez, je trouve que on présente trop souvent les mémoires de monsieur un tel, que ce soit du Moyen-Âge, que je prends Philippe de Comines, évidemment, puisque je l'ai cité, comme un document historique. Oui, c'est un document historique, mais pas du tout sur la société, la politique de l'époque. C'est un document historique sur ce que monsieur Comines pensait ou ce qu'il voulait faire croire. N'est-ce pas? Et toutes les mémoires, c'est cela. Ce n'est rien d'autre. Et voilà quelque chose qui doit quand même nous donner à penser. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut les évincer, ça peut être très intéressant à lire, ça donne des renseignements importants sur une vie d'homme et de femme, bien entendu, mais ne prenez pas ça pour voir ce qu'était la société de l'époque, sûrement pas, n'est-ce pas? C'est pas possible.
Donc vous allez beaucoup plus, vous allez vraiment en profondeur.
Alors, il vous faut des documents, je dirais, anodins. C'est-à-dire des gens qui ont écrit, sachant très bien que personne ne lira d'autre qu'eux-mêmes ce qu'ils étaient en train d'écrire. C'est pourquoi il y a des mémoires intéressantes, mais des mémoires du bonhomme dans son coin, n'est-ce pas, qui tient un journal quasi intime, domestique, n'est-ce pas? Alors celui-là, on ne peut pas le taxer d'avoir voulu briller, défendre, attaquer un autre.
Les sources sont vraiment importantes dans l'émission Un jour dans l'histoire. Très concrètement, en fait, vous trouvez où ces documents? Vous les trouvez dans... Parce qu'un document anodin, Comines, vous le trouvez facilement, mais un document anodin, vous le trouvez où?
Ah bien, vous savez, il y a... puisque nous en sommes aux mémoires anodines, beaucoup ont été publiés. En France, il y en a très peu. C'est le malheur. Vous savez, nous avons subi des dégâts considérables, guerre de religion, révolution. Beaucoup de textes sont disparus. En Italie, non. Et encore, n'est-ce pas? J'ai pas un génois à me mettre sous la dent, mais ceux qui travaillent sur Florence, sans parler de Machiavel qui est beaucoup plus tardif, mais là, de mémoire, je vous citerai une dizaine de noms de chroniqueurs qui sont extraordinairement féconds, très intéressants et qui n'ont pas joué un rôle politique. Donc, oui, dans un canon, dans l'autre, mais surtout, alors tous les autres documents, les documents financiers, les documents notariés, par exemple, c'est les archives.
On ne peut qu'inciter donc les étudiants à connaître les langues étrangères.
Oui, évidemment. Ce n'est pas tout de suite fait. Parce que vous prenez un bon étudiant en latin, je vous rassure tout de suite, je n'en étais pas vraiment, non. Vous le prenez et vous le mettez sur des textes latins de l'époque, n'est-ce pas? Eh bien, là, ils sautent en l'air, n'est-ce pas? Truffé de néologismes, truffé d'incorrections grammaticales. Vous pensez que tous mes documents génois étaient tous en latin. Écrit par des gens, c'est comme ça, c'est quand même remarquable. Tous les notaires, c'était ma documentation principale, écrivaient en latin. Les procès-verbaux des réunions des conseils de la commune, c'était une grosse affaire, étaient aussi en latin. Il y a juste au moment, au début, on les a, au début, le doge prenait la parole, lui, en génois, c'était pour dire « Messieurs, nous voilà ». Il n'y a plus un sou dans la caisse, n'est-ce pas? Mais à part ça, tout le reste, ensuite, c'était en latin. Donc, il y a, c'est pourquoi, si vous voulez, je ne dis aucun mal, je ne déprécie pas du tout l'histoire contemporaine, mais ils ont d'autres difficultés, mais ils n'ont pas celle-là. La langue quasi imperméable, au bout de 6 mois, vous êtes expert, bien sûr. L'écriture très dure à déchiffrer. C'est pourquoi, souvent, je trouve qu'il y a une facilité de langage un peu abusive de parler du métier d'historien. Il n'a rien à voir.
Alors, nous reviendrons sur cette notion, sur le métier d'historien. Sur le langage, en tous les cas, vous dites très clairement dans votre livre que, à l'avenir, les historiens auront bien des difficultés à déchiffrer notre langage d'aujourd'hui. Nous y reviendrons. Et également, je voudrais revenir quand même sur le thème de la ville. De la ville aux considérations négatives, souvent négatives sur le Moyen-Âge, il n'y a qu'un pas. Et votre œuvre, au contraire, elle tend à prouver que la civilisation urbaine de l'Empire ne s'effondre pas et qu'au fond, la limite empire époque médiévale
Rome,
est complètement est inventée.
Alors là, je, si vous voulez, je reprends tous ceux qui ont écrit avant moi, parce que ce n'est pas vraiment ma période. Hein. Je suis plutôt spécialiste des 14 et 15e siècles. Alors, je rebondis, on va parler moderne, sur ce que vous venez de dire, pour dire que je dis la même chose entre la période médiévale et la période moderne. C'est évident que nous avons créé, enfin nos maîtres, je ne sais pas trop quand aussi, et ça ne se lit pas facilement, ont créé forcément des périodes dans l'histoire pour pouvoir enseigner, mais ces périodes sont parfaitement artificielles, et on voudrait qu'il y ait une rupture entre elles, alors qu'on aurait pu les mettre n'importe où.
Alors, il y a cette rupture. Il y a, sur le thème de la ville, l'opposition entre la ville et la campagne, vous en avez déjà parlé, et il y a aussi le fait que les villes, eh bien, elles sont beaucoup plus princières que bourgeoises.
Oui, tout au moins, Italie, Espagne, Allemagne, un peu moins, tout dépend des périodes. En France, si vous voulez, la différence, est, je crois, est celle-ci, elle reste des villes non princières, nobles, car les princes, par exemple en Italie, les tyrans ne sont apparus qu'au XIVe et XVe siècle, n'est-ce pas ? À Mantoue, à Est, à Ferrare, à Milan, bien, et pas à Florence. Hein. Enfin, plus tard encore avec les Médicis, et jamais à Venise ni à Gênes. Et ça, bien entendu, ces villes-là sont des villes héritées de l'Antiquité et qui n'ont pas de grands maîtres. Je crois que la ville française, avec un roi, la ville germanique, avec un empereur, en Angleterre, avec un roi, cela a fait disparaître les autorités locales, je dirais les puissances locales, un peu laminées sous l'autorité du souverain. Et donc, ce que vous venez de dire s'applique aux villes du Midi, en quelque sorte, n'est-ce pas ? Mais disparaît assez vite en France.
Alors, vraiment, vous nuancez énormément votre propos. Peut-on, Jacques Herz, simplifier, vulgariser tout en respectant l'histoire ?
Mais non, mais il le faut. On ne peut pas, on ne doit pas, mais il le faut, je ne vois pas. J'en parlais justement à l'un de vos collègues récemment dans une conversation. On ne peut pas quand même souhaiter que l'on n'enseigne pas aux enfants notre passé, n'est-ce pas, nos racines. Ça serait qu'ils ignorent tout, et de la chronologie et des grands événements. Ce serait pour moi un drame. Mais pour l'enseigner, il faut naturellement non pas tricher volontairement, alors là l'État l'a fait bien trop souvent, mais au moins simplifier, au moins donner des règles, et tout cela fait qu'on gomme la diversité précisément, on gomme les questions, les incertitudes, et alors je dirais que l'école et le collège, jusque même assez longtemps dans au lycée, c'est fait pour cela. Et qu'ensuite, peu à peu, et il faut commencer à se dire, bon, ça, c'est vrai, l'essentiel est là, mais essayons de nuancer. Et c'est ce qui me frappe beaucoup, c'est que je vois très très souvent dans des conversations et quand j'entends des émissions de radio ou autres, la télévision, n'en parlons pas trop, des gens qui ont des certitudes qu'ils ont gardées de l'école primaire. C'est très, très, très honorable, très remarquable, mais quand même, on a écrit des choses beaucoup plus riches que les manuels de l'époque. Le même auteur d'un manuel de l'école primaire a lui-même écrit des choses plus importantes.
Alors justement, Jacques Herz, peut-on parler du métier d'historien ? Je vous reposerai la question après une seconde pause.
Vous écoutez Canal Académie.
Thank you. Je reçois Jacques Herz, éminent médiéviste et auteur dernièrement du livre « L'histoire assassinée, les pièges de la mémoire » paru aux éditions de Paris. Alors, nous avons lancé toute une réflexion historiographique, Jacques Herz, et je vous laissais sur une question à laquelle il vous tarde de répondre. Peut-on parler du métier d'historien ? Je cite l'histoire assassinée. « Le mot est commode, dites-vous, devenu habituel, mais la moisson de documents est tellement différente, plus ou moins riche, et de nature souvent si particulière selon les époques, et même selon les pays, les villes et les sociétés, que les méthodes d'approche et d'élaboration n'ont rien de commun. »
Oui, c'est sûr. D'abord, entre les périodes, n'est-ce pas ? Mon Moyen-Âge, si j'ose dire, est à la charnière. C'est-à-dire qu'avant, les documents écrits ne sont pas très nombreux dans l'Antiquité, même romaine. Il y en a beaucoup. Ce que nous appelons le Haut Moyen-Âge est de même. Au contraire, nous en avons beaucoup pour le XVe siècle. Je viens de vous dire, pour l'Italie, il y en a. Et puis après, au contraire, il croule sous les documents. Donc, c'est pas la même chose. Tout à l'heure, il n'y a pas longtemps, nous avons évoqué ensemble les difficultés d'approche des documents pour certaines périodes, alors que ces difficultés n'existent pas. Ils ont le problème de la statistique, par exemple. Et ce que j'ai découvert, j'allais dire, non pas tout à fait pour écrire le livre, mais assez tard, trop tard pour en parler à mes étudiants, je les avais déjà quittés, c'est que même à l'intérieur d'un milieu circonscrit, le Moyen-Âge, la ville d'Italie, vous n'avez pas la même documentation et que cela vous prédispose à une approche, à une démarche tout à fait particulière. Je reprends, bon, nous sommes là presque en confession, je reprends, n'est-ce pas, mes recherches de Gênes. J'allais faire de l'histoire économique. Braudel me lance sur l'histoire économique. Il me fallait un des registres de douane, forcément ça, bien. Et deux, une comptabilité ou d'État ou une comptabilité des grandes compagnies bancaires ou commerciales de l'époque. Premièrement, il n'y a pas de grande compagnie à Gênes, très peu, c'est très, très, très difficile. Et surtout, il n'y a pas disons que pour un siècle, j'ai trouvé trois registres de douane et j'ai trouvé un livre de compte d'un bonhomme que je me suis empressé le livre de publier, mais qui était, bon, qui est intéressant pour les techniques, mais qui ne donnait rien. J'ai trouvé des notaires, j'ai trouvé des milliers d'actes notariés. Mon collègue qui travaille, mes collègues italiens qui travaillent sur Florence ou sur Pise, sur la ville de Pise, sur la ville de Prato, qui est une petite ville à côté de Florence, pour un seul marchand, ils avaient peut-être 20 000 lettres marchandes ou 100 ou 120 registres de compte qui venaient de la maison mère et des succursales. Et vous voyez la différence d'approche. On ne peut pas approcher de la même façon. Moi, j'ai reconstitué, et la synthèse était difficile. Eux n'ont pas le quotidien, ils ont l'ensemble. Et le métier, oui, le métier n'est pas le même.
Alors, on parlera du métier des historiens ?
Oui, ou des métiers d'historien.
Des métiers d'historien.
On pourrait comme cela, oui.
Alors, vous allez encore plus loin, puisque quelques pages, page 29, vous posez la question, vous dites l'avenir, point d'interrogation, fin de l'histoire, faute de documents, par défaut et abandon, point d'interrogation, bis. Et plus loin, vous expliquez que le langage codé, le langage truqué des textes aujourd'hui, eh bien, rendra le travail de l'historien demain très difficile. Mais n'est-ce pas le rôle justement de l'historien de déceler ce qui est truqué et ce qui est codé ?
C'est-à-dire que, ça, il y arrivera, mais il faut encore qu'il arrive à le comprendre. Non, ce que j'ai dit, c'est que déjà, si vous voulez, c'est un peu compliqué, c'est que premièrement, vous avez des sources essentielles qui ne vont plus exister. La lettre n'existe plus. La lettre domestique, c'est fini, le téléphone, etc. On ne va pas aller chercher dans les disques durs, n'est-ce pas, ce qui traîne dans les courriels. C'est tellement rapide aussi que ça ne peut pas apporter grand-chose. Donc, il y a une grande part de documentation qui va... Est-ce qu'à l'heure actuelle, par exemple, les familles tiennent un livre de compte, un agenda pour marquer leurs dépenses, j'en sais trop rien, n'est-ce pas ? C'était obligatoire à un certain moment. Enfin, ça se vend encore, c'est vrai, en les vend. Je ne sais pas s'ils sont remplis, mais en les vend. Mais alors, il ne s'agit pas seulement de comment dirais-je, de voir si c'est truqué. Ben oui, ça c'est le rôle de l'historien, d'essayer de confronter, de dire celui-ci s'égare. Mais c'est tout simplement de comprendre. De comprendre. D'abord parce qu'il y a les cuistres qui écrivent d'une telle façon que ça ne veut plus rien dire. Mais ça, ça n'est pas tellement répandu. Mais ce sur quoi je me suis attardé, et ça me paraît plus dangereux, ce sont évidemment les sigles. À l'heure actuelle encore, si vous voulez, si je suis en voiture et que je cherche mon chemin, je vois des panneaux dans telle ou telle commune avec quatre lettres. Je me dis, tiens, qu'est-ce que ça peut bien être ? C'est un langage pour initier. À l'université même, je connais encore bien des jeunes collègues qui m'en parlent, on ne parle plus en termes, si vous voulez, entiers, on parle en lettres. Autrefois, quand j'ai quitté, il y avait le personnel enseignant. Maintenant, c'est la RSH ou quelque chose comme ça. Oui, ressources humaines, oui, c'est ça. Bon, c'est le plus simple. Il y avait certificat de licence avec Moyen-Âge. Maintenant, c'est cinq... Oui, vous avez une liste.
Vous citez tout, effectivement tous ces sigles qui font peur. Oui,
Vous allez me dire, bah, écoutez, ils n'ont qu'à s'y mettre et ensuite traduire. Ah, premièrement, il faudrait vraiment de très gros dictionnaires.
Oui, puisque ça change en plus souvent.
Et voilà.
Oui.
Ça change tous les six mois. Oui. Donc, ils ne peuvent pas y arriver.
Oui. Alors, je reviens à votre parcours d'historien et si vous le voulez bien, à votre parcours d'auteur. Le genre biographique a longtemps été délaissé, là encore pour raisons idéologiques. Et vous publiez dès 1981 un travail consacré à Christophe Colomb. Alors, Christophe Colomb, parce qu'il est génois ?
Oui. Ça s'est passé comme ça. Enfin, pour tout dire, allons très vite, mes premiers livres ont été mes deux thèses, quand même ça, n'est-ce pas, qui ont été publiées à l'École des hautes études. Et puis ensuite, eh bien, j'ai été recruté par Robert Boutruche pour le Clio. Et aussitôt après, j'ai fait, vous allez voir, le précis d'Histoire du Moyen-Âge, qui a suivi 2 ans, et qu'ils ne rééditent plus, les presses universitaires ne rééditent plus le Clio, mais ils rééditent le précis. Et puis là, je me suis dit, bah, tout de même, tout ça, c'est bien petit, quoi. Et le directeur des presses universitaires, qui était passé ailleurs, chez Hachette, m'a dit, bah, voilà, toute l'édition était en émoi à cause des succès, n'est-ce pas, de Fayard avec le Louis XI. Ils l'ont vendu, plus personne ne pensait qu'on pouvait vendre de la biographie. Et il y a eu ensuite un de Favier sur un des conseillers de Philippe le Belge, j'oublie, un ou deux. Et puis alors allez-y-vous. Ben, moi je dis je veux bien, mais une fois un Italien, ne choquez personne, j'ai fait Christophe Colomb.
Alors vous dites sur Christophe Colomb, il est la preuve éclatante d'une société encore ouverte, étonnamment souple, capable d'assimiler des énergies d'hommes neufs.
Oui, c'est ce qui m'a beaucoup frappé, n'est-ce pas ? Au fond, la ville, même à Florence, que j'étudie un peu en ce moment, les familles nobles importantes restent en place, mais ils reçoivent quand même. Tandis que là, lorsqu'on regarde la société de Gênes, ce qui m'a frappé, je sais que ça leur fait plaisir parce que je l'ai dit plusieurs fois, c'est la liberté et l'individualisme. Ça. L'État s'efface. L'État s'efface, il n'arrive pas à tout. Je prends un exemple très, très clair, si vous voulez. Vous avez une compétition marchande, maritime, entre Venise et Gênes pour aller chercher des draps en Angleterre et les vendre très cher en Orient. Que font les Vénitiens qui surveillent ça de très près, l'État ? Bon, le navire qui part d'Angleterre, et pour aller en Orient, il passe d'abord à Venise, où il est contrôlé. Où on taxe, où on débarque, on attend quelques semaines, on recharge et on repart pour l'Orient. Les Génois, eux, ils font une traite. Ils ne s'arrêtent pas. N'est-ce pas ? Parce que, il faut bien payer les douanes. Et alors, j'ai regardé les 3 registres malheureux de douanes dont je vous ai parlé. Eh bien, vous avez là. Et puis, de temps en temps, on voit qu'est passé quelques années plus tard, quelqu'un disant oh, « ça, c'est pas ça, c'est faux », mais enfin, ça passait comme ça. Donc, voyez-vous, la ville de Gênes a une spécificité qui est très nette, qui est... Tenez, je prends un autre exemple, alors, pour l'opposer à Florence. À Florence, les grandes compagnies, vous les connaissez, les Médicis et d'autres, Alberti, Bardi, etc. Un homme d'affaires florentin s'inscrit dans cette compagnie familiale qui porte le nom de la famille et il ne va faire d'affaires nulle part ailleurs. Le Génois lui se met partout. Il n'y a pas une seule compagnie génoise qui porte un nom de famille. Elle porte un nom d'activité. Et elle reçoit des participations anonymes, même de petites gens.
Je vais parler de manière moderne, Jacques Hirst, tout comme vous tout à l'heure, je vais rebondir sur votre propos. Christophe Colomb, Marco Polo, les croisades, vous évoquez le trafic, peut-on utiliser le terme de trafic maritime? Le voyage est une des constantes de votre œuvre.
Oui, parce que c'est une des formes de l'aventure humaine. Je crois cela, je n'étais pas en mesure d'étudier les transports par route. Je viens de faire un article là-dessus pour une bonne revue, mais quand même, je dirais ceci. Ce qui m'a frappé, j'en ai fait un des chapitres du livre aussi, c'est que l'on a voulu nous imposer le mot d'histoire humaine pour, si vous voulez, l'histoire. Or, on essaie de diminuer sans arrêt la valeur de l'homme. Et moi, j'y crois beaucoup, au contraire. Et dans Christophe Colomb, en particulier, j'ai démoli, mais je n'étais pas le premier, n'est-ce pas? Tout dépend de la diffusion des ouvrages. Il y avait 5 ou 6 colloques maritimes, personne ne lisait. Tandis que le Christophe Colomb, évidemment, j'ai démoli les théories qui disaient « et la boussole, et la caravelle, et le... bon. » Non, non. La découverte de l'Amérique est une aventure humaine à mettre au profit d'hommes d'énergie, d'un homme capable aussi d'entraîner d'autres hommes. Et au fond, ben voyez-vous, les croisades ont rejoint un peu cela. Et je dirais que dans tout trafic maritime à l'époque, c'était le cas. Et longtemps après encore.
La croisade, dites-vous, en tous les cas, la première croisade, vous avez publié un livre, vous êtes le seul d'ailleurs à avoir publié un livre en 1995, donc pour le 900e anniversaire de l'appel de Clermont. Mmh. La première croisade rééditée dans la collection Tempus, donc la collection de poche des éditions Perrin. Vous dites dans cet ouvrage, là encore vous démolissez beaucoup d'idées reçues, notamment le fait que ce sont des personnes qui partent comme cela à l'aventure. Non, il y a vraiment un encadrement qui est un encadrement ecclésiastique et il s'agit d'une aristocratie, de grands seigneurs et non pas d'une petite noblesse qui part comme cela faire une guerre sainte. Et l'idée de même guerre sainte est absolument fausse.
Beaucoup
pour
à
la
dire,
première croisade.
Beaucoup à dire là-dessus. Mmh. Effectivement, comment peut-on dire, n'est-ce pas, que ce sont de petits seigneurs, n'est-ce pas, des déclassés, quand il y avait Godefroy de Bouillon, qui était quand même le duc de Basse-Lorraine, et surtout le plus puissant des princes de France après le roi, Raymond Saint-Gilles. Mmh. Et il y avait aussi Étienne de Blois, enfin il y en avait plusieurs autres qui ont perdu beaucoup, qui sont restés, qui sont morts là-bas. Et alors, surtout, ce qu'il faut dire, n'est-ce pas, c'est qu'effectivement, vous l'avez dit, le mot de guerre sainte, je ne vois pas très bien ce qu'on veut dire. Si la guerre sainte, c'est détruire une religion, en quelque sorte. Eh bien non, pas pour la première croisade. Par la suite, les choses ne sont pas arrangées du tout, mais il a fallu du temps pour que ça devienne conflictuel. Mais au début, reconquête des territoires, on oublie cela. On parle de reconquista pour l'Espagne, on ne veut pas le dire pour les États de Syrie et de Palestine. C'est une reconquête. Ils n'avaient que ça en tête. Il ne pouvait pas oublier que ces États avaient été chrétiens. Oubliait-il aussi que, je crois, on n'a pas fait de statistiques ni de recensement, que la majorité des populations étaient chrétiennes encore. Mmh. Encore. Mmh. Donc, par conséquent, c'est une volonté de reconquête.
Mmh. Vous dites qu'il faut davantage utiliser le terme de pèlerin, d'ailleurs, plutôt que croisé.
C'est le terme. Alors là, on pourrait se revoir et il nous faudra encore 50 minutes.
Je renvoie tout de même nos auditeurs à l'émission que nous avons enregistrée ensemble, donc sur l'appel de Clermont.
Oui, oui, oui. Non, mais c'est pour dire que toute la déformation historique vient de mots inappropriés et des mots tardifs. Le mot croisade n'existe pas à l'époque. Le mot de croisé n'existe pas. Il n'y en a qu'un seul, c'est le mot de pèlerin. Plus tard, ils ont dit, ils disent aussi pour les opposer les Latins. Ils disent, n'est-ce pas, également les Francs. Mais ils n'ont jamais dit les croisés, c'est sûr. Voilà, des mots qui n'étaient pas utilisés. Et il y en a d'autres, beaucoup d'autres.
Alors, je vais vous en donner un autre. Pour aller à Jérusalem, on passe par Constantinople, Byzance, et le choix des termes, là encore, n'est pas anodin. Constantinople renvoie à l'Empire romain d'Orient. L'Empire byzantin, lui, est un terme qui apparaît bien plus tardivement. On a oublié qu'il s'agissait de l'Empire romain d'Orient.
Je crois qu'on a voulu l'oublier, n'est-ce pas ? Il y a eu un moment, il y a eu le problème des rapports qui ont été très graves, puisque du point de vue religieux, c'est allé jusqu'au schisme, mais le problème de la rivalité entre Constantinople et l'Occident, dont nous ne sommes pas guéris. Nous ne sommes pas guéris de cette rivalité entre orthodoxes et, disons, romains, n'est-ce pas ? Pas du tout. L'origine, c'était qui est l'héritier de Rome antique ? Or, moi, je me pose la question, je ne l'ai pas écrit là, à ce moment-là, parce que c'est toujours l'esprit d'escalier. Nous ne devons pas dire que Constantinople est l'héritier de Rome. Constantinople est Rome. Il n'y a pas eu discontinuité.
Oui. Alors, justement, l'an dernier, vous avez publié chez Perrin « Chute et mort de Constantinople » 1204-1453, chez Perrin, un livre que je qualifierais de dérangeant puisqu'il rappelait que la division de la chrétienté a pesé dans la chute de Constantinople.
Oui. Oui, la division, c'est exactement ce que vous venez de dire, n'est-ce pas ? Je crois qu'on ne peut pas dire qu'il y ait eu mépris, volonté de faire mal. Non, non, pas du tout. Il y a eu quand même des armées de secours. Il y a eu quand même la tragédie de Nicopolis. Je crois que l'Occident n'a jamais autant perdu d'hommes que ce jour-là, cette bataille. C'était contre les Turcs. Quand même, ils essayaient. Et puis après, non, ils n'ont pas. Et surtout, la reconquête était impossible, malgré les efforts du pontificat, malgré les efforts des papes, n'est-ce pas, et de Rome, en général. Mais le problème, alors, on en arrive à ce problème que j'ose à peine formuler l'idée, n'est-ce pas, c'est que un empire pouvait mobiliser toutes les forces de l'Occident, les États nationaux se disputaient.
Alors, venons-en précisément aux États nationaux. Est-ce que nous sommes, Jacques Herz, à la fin d'une époque ? Nous verrons cela après la toute dernière pause. À tout de suite.
Un événement,
une association,
une œuvre,
une fondation.
Tout ce qui mérite votre attention est dans Point de Mire,
en direct ou en médiathèque,
sur Canal Académie.
Nous entamons la dernière partie de notre émission qui est consacrée à une rétrospective de l'œuvre du médiéviste Jacques Herz, qui vient de publier « L'histoire assassinée, les pièges de la mémoire » paru aux éditions de Paris. Alors, nous évoquions la chute et la mort de Constantinople, donc en 1453. Est-ce que Jacques Herz, c'est la fin d'une époque, le commencement de la raison d'État, du service du roi, même si, encore une fois, on ne bascule pas d'une époque à une autre comme ça du jour au lendemain?
C'est l'aboutissement de ce qui était en germe depuis pas mal de temps. C'est sûr que quand déjà le maréchal de Boucicaut est allé aider Constantinople, le roi... Enfin, si vous voulez, les chrétiens d'Occident... En France, je vois mal ce qui se passe. Les Anglais, là, on n'en parle même plus. Mais les chrétiens de France ne peuvent aller combattre en Orient pour soutenir les Grecs, donc contre les Turcs, que s'ils ont le congé du roi. Ça, c'est net. C'est quand même très grave, n'est-ce pas ? C'est sûr. Mais effectivement, on voit mal. On voit mal quel était le plus important pour le roi de France, de reconquérir la Normandie ou d'aller... C'était...
Alors, je passe d'une œuvre à une autre, Jacques Herz, j'espère que vous ne m'en voulez pas, mais la raison d'État m'amène à une autre de vos biographies qui nous situe à la limite de l'histoire et de la littérature, c'est celle de Machiavel. Nous avons d'où tendance à limiter Machiavel au petit livre Le Prince, alors qu'il y a un autre Machiavel.
Machiavel a une carrière politique remarquable. Il a quand même été, bon, il était opposé aux Médicis, il les aimait pas, et lorsque ils ont été chassés d'abord par Savonarole, puis un peu plus tard, il a été secrétaire d'État, si on peut appeler cela comme cela, et ensuite au retour des Médicis, il a connu des jours d'exil extrêmement durs, donc il a essayé de se sauver en faisant cette petite chose, n'est-ce pas, du prince, qui, alors là, je crois que un jour, des collègues le feront, nous n'avons pas d'études sur les circonstances de la notoriété littéraire, n'est-ce pas ? Pourquoi celui-là, on en parle ? Moi, j'ai Le Prince est tout petit, ça ne m'a pas passionné du tout, c'est une opinion personnelle, et je trouve qu'on n'y apprend pas énormément, ce n'est pas sot, loin de là, mais il y a une œuvre considérable. Considérable. Et il y a en particulier, qui a été alors tout à fait la fin de sa vie et resté inachevé, les histoires florentines que la commune de Florence lui a consacrées. Et je dirais, c'est là-dessus que je suis attardé. Je m'en sers en ce moment pour un autre livre. Et je trouve là dans Machiavel un historien des structures politiques, n'est-ce pas, des conflits, des moyens. Comment gagner le pouvoir sans se battre, tout en se battant ? Et là, c'est remarquable. Et je dirais que c'est deux choses, que le héros n'est pas le Borgia dans cela, non, c'est Côme de Médicis, bien sûr, c'est lui qui a installé la dynastie. Parce que il y avait des tyrannies. Il y avait des seigneurs des Visconti, Sforza, Scaliger, Gonzague, etc., toujours par les armes. Là, voilà, et Florence n'est pas un petit morceau, voilà quand même une famille qui s'installe sans tirer l'épée.
On veut toujours faire en histoire des, on veut toujours trouver en histoire des précurseurs ou bien des gens sortant de leur époque, alors que c'est malgré tout une idée qui est fausse. Les gens sont bien de leur époque.
Oui, heureusement pour eux. J'ai toujours pensé que mon malheureux Louis XI, qui avait un pied dans le Moyen-Âge et l'autre dans l'histoire moderne, ne se passe des façons de parler, mais ça s'écrit encore. C'est oui. Était-il moderne ? Ah, alors, non, vous avez raison, il y a, on s'inscrit dans son époque, on a peut-être des gens qui étaient des précurseurs, des audacieux, ça c'est vrai, mais
des
en
visionnaires.
Général, oui, des visionnaires, ils n'ont pas toujours réussi, mais enfin quand même, ils sont entourés par un contexte dont ils ne se défont pas forcément.
Alors, il y a cette idée des gens à cheval sur deux époques, mais il y a une autre idée, sont tous ces gens qui sont entre l'histoire et la légende, et un de ces personnages, vous l'avez étudié de manière très précise, c'est Gilles de Rais, qui lui bénéficie ou pâtit d'une légende assez noire.
Oui, alors il y a la légende de Barbe Bleue, ça c'est autre chose, on l'a identifié avec Gilles de Rais, bon ça, non. C'est sans importance, on peut toujours. D'ailleurs, il ne s'en prenait pas aux femmes, Gilles de Rais, il s'en prenait aux petits garçons, alors c'est quand même pas la même chose. Bien, non. Mais surtout, je crois que ça a été à la façon, alors c'est assez intéressant, d'un auteur, romancier, qui s'est acquis une certaine notoriété en révisant le procès. Et alors, ce n'était pas la première des repentances, en quelque sorte, mais je crois que ça a été bien suivi par la suite.
Vous luttez contre cette idée de repentance
en tant que citoyen, en tant qu'individu, oui. Je trouve que se repentir soi-même, ça, sans aucun doute. Mais alors, à ce moment-là, se repentir pour ce que l'on n'a pas fait, c'est sans danger. Naturellement, ça ne coûte pas cher, c'est sûr. Et puis, d'un autre côté, ça peut être très injuste, parce que l'on ne connaît pas suffisamment les faits, on ne connaît pas suffisamment le contexte social du moment, et surtout, là, je crois que l'on peut aller jusque-là, dire, on ne sait pas soi-même ce que l'on aurait fait dans le même cas.
Alors bien évidemment, par voie de conséquence, vous n'oubliez pas les fameuses lois mémorielles. Est-ce que l'opposition que rencontrent ces lois et qui est médiatisée n'est pas malgré tout un signe d'espoir pour l'historien et pour le devoir d'histoire ?
C'est, si vous voulez, une bonne chose dans la mesure où ça éveille un peu l'opinion qu'il n'était pas tellement. Personnellement, je ne suis pas béat d'admiration devant la démarche, parce qu'elle est venue très tard. Elle est venue, il y avait longtemps que les lois étaient en vigueur, n'est-ce pas ? On en avait même préparé une encore plus dure, dont on n'a pas parlé. Et elle est venue par un article d'un non-historien, un journaliste de talent par ailleurs, dans un magazine assez populaire, uniquement d'abord pour le problème de la colonisation et des bienfaits. Et les premiers qui ont lancé cette opération, se sont fait tirer pas mal les mots de la bouche pour dire remontons jusqu'aux toutes premières lois. Ça, c'est sûr. Mais enfin, rien n'est mauvais. Dans tout cela, bien au contraire.
Vraiment, la constante de votre œuvre, Jacquère, c'est de sortir des mythes, sortir des légendes, sortir des mémoires.
Oui, n'est-ce pas le travail de tout historien, ou de tout auteur même, je dirais. Maintenant, effectivement, je crois que je ne suis pas contre les mythes, ni contre les légendes. Je verrai tout à l'heure, j'aime beaucoup les romans historiques, pas tous, tout dépend du style. Parce qu'il ne suffit pas d'écrire pour bien écrire, et surtout un roman. Par exemple, moi, souvent des collègues s'amusent, « Pourquoi tu n'écris pas ?» Je dis « Non, je suis incapable. » Déjà passé du manuel, comme j'ai fait, Clio et autres, à une biographie, c'est déjà un échelon terrible. Pour moi, ça a été du point de vue écriture. Et alors le roman, c'est... J'admire le talent du romancier, il n'y a pas de doute. Mais il ne faut pas qu'il s'amuse. Il peut aller ici et là, il peut grappiller, il peut... les anachronismes n'ont aucune importance, mais qui ne se mêle pas de délivrer des messages trop clairs.
Eh bien, Jacquère, je vous remercie beaucoup.
Mais c'est moi qui vous remercie,
pour
bien
ces
sûr.
Confessions. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes l'auteur du livre « L'histoire assassinée, les pièges de la mémoire » paru aux éditions de Paris. Votre œuvre se trouve également chez votre éditeur principal, les éditions Perrin, dans la collection de poche, la collection Tempus, la première croisade, le Louis XI. Et je vous recommande chaudement, chers auditeurs, « Chute et mort de Constantinople » paru en 2005, 1204-1453. Donc chez Perrin, merci beaucoup et à très bientôt pour un autre numéro d'Un jour dans l'histoire.